France Culture.
Vous avez demandé les midis de culture, ne quittez pas, c'est la deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec la cinéaste Claire Simon. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. De quoi Aya Nakamura est-elle le nom? Passée au statut de star planétaire depuis sa performance à la cérémonie des JO, la chanteuse condense autant d'admiration que de haine. Artiste francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura fait désormais partie de notre patrimoine culturel. Et c'est le dossier du point culture du jour. Ismaël Mereghetti, bonjour.
Bonjour Marie Sorbier.
Vous êtes journaliste, auteur, réalisateur de documentaires, vous êtes spécialisé dans la musique. Vous venez de faire paraître Aya Nakamura, dictionnaire critique. Dans votre avant-propos, vous associez le mot populaire au nom de la chanteuse franco-malienne. En quoi Aya Nakamura représente-t-elle une figure populaire selon vous?
Alors, effectivement, c'est un mot qui me tenait à cœur pour la définir. Je pense qu'elle l'est à plusieurs titres. Déjà par les chiffres, le public qu'elle arrive à conquérir est extrêmement vaste. Il regroupe des générations, des classes sociales, des horizons très divers qui définissent un peuple très vaste, que d'ailleurs elle appelle la Nakamourance. Mais en tout cas, les gens qui la suivent sont très nombreux et très éclectiques. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très populaire dans sa musique, au sens où il y a une simplicité qui n'est pas du tout dénuée de talent, mais qui permet de toucher les cœurs du plus grand nombre. Et cette efficacité musicale-là, je la trouve très populaire dans le bon sens du terme.
Mais alors, à qui elle s'adresse justement cette musique et quels sont peut-être les bons mots pour la définir?
Alors, il y a eu beaucoup de quiproquos autour de sa musique. Comme c'est une femme noire qui vient de Seine-Saint-Denis, de quartier, on a souvent dit que c'était du rap. C'est pas du tout du rap, déjà. Aya Nakamura est une chanteuse. On l'a parfois associée au R&B, dérivé du rap chanté, mais c'est pas forcément le cas non plus. En fait, Aya Nakamura, musicalement, elle fait une hybridation. Elle se situe au carrefour du zouk, de rythmique caribéenne, et puis de mélodies, d'instruments hérité des cultures africaines, notamment du Nigeria et notamment de ce qu'on appelle l'afrobeat. Donc elle se situe un peu au carrefour de tout ça. Elle mélange également des mots, des rythmiques de phrases empruntées au hip-hop. Mais voilà, Aya Nakamura, c'est une sorte de révolution culturelle dans la musique française de ces dernières années, parce que ce qu'elle fait n'existait pas auparavant et n'est pas vraiment dupliqué.
Alors vous avez employé ce mot de révolution culturelle. Pourquoi, selon vous, Aya Nakamura est-elle devenue un symbole en fait de la France d'aujourd'hui?
Alors à plusieurs titres. Déjà, c'est une femme puissante, solitaire, qui est très peu entourée et qui mène son business et sa carrière, son univers artistique seule. Elle dégage pour beaucoup de jeunes femmes de tous horizons, mais notamment aussi des jeunes femmes racisées, des jeunes femmes de quartier, un sentiment d'indépendance et de puissance. Donc déjà, il y a ce côté symbole-là. Par ailleurs, je suis assez surpris de constater qu'on peut entendre Aya Nakamura dans une fête de village de n'importe quel département français, comme on peut l'entendre en soirée d'une école de commerce parisienne. Elle arrive à toucher un public qui est extrêmement, extrêmement varié.
Oui, ou chez des grandes stars internationales aussi. Hein. On l'a retrouvée dans des cartes de vœux, je crois. C'était celle de Madonna, il me semble, non?
Celle de Madonna. Alors, il y a Rihanna aussi qui a plusieurs fois posté des vidéos où elle dansait sur la musique d'Aya. Aya a fait l'objet de plusieurs remixes d'artistes notamment sud-américains, de grosses stars sud-américaines. Vraiment, sa musique a réussi à rayonner. C'est devenu d'ailleurs l'artiste francophone la plus écoutée à l'international. Et ce qui est surprenant et ce qui en dit long aussi sur sa personnalité, c'est qu'elle ne se presse pas plus que ça pour faire des collaborations internationales. Elle va vraiment au feeling vers des artistes de cœur qui sont parfois bien moins connus qu'elle, alors que les rumeurs lui prêtent des volontés de collaboration de la part d'artistes de méga-stars américaines.
Alors votre dictionnaire, comme tout bon dictionnaire, commence par la lettre A, et au A on retrouve Académie française. Alors bien sûr, c'est une séquence qui est instantanément devenue historique, cette collaboration entre Aya Nakamura et l'Académie française pendant les JO, pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Comment vous l'analysez dans son parcours à elle, cette séquence-là?
En fait, cette séquence, elle arrive après un moment très compliqué pour elle, qui a été toutes les polémiques, notamment des polémiques à relents racistes, au moment de l'annonce de sa possible participation au JO. Il y a eu des choses très très violentes qui sont sorties sur elle, des banderoles dans Paris à connotation raciste, beaucoup d'hommes politiques sont allés sur les plateaux pour s'exprimer sur son art, tout simplement, en disant que ce qu'elle faisait n'était pas de la bonne musique, était vulgaire, etc. Et donc, je pense que la légitimation qu'elle a obtenue au moment des JO en sortant de l'Académie française, en traversant le Pont des Arts pour aller rejoindre la garde républicaine, c'est un symbole d'une partie de la France qui dit « Aya fait partie de notre patrimoine culturel, que vous le vouliez ou non ».
Alors Aya Nakamura, elle a 30 ans. Vers quoi se dirige-t-elle, selon vous, dans les prochaines années ? Votre dictionnaire se clôt comme ça, hein, sur une ouverture en disant qu'il y aurait encore 1000 choses à découvrir. Mais vous, votre sentiment, c'est quelle est sa voie, quelle est sa direction ?
Bah, à vrai dire, je suis très curieux aussi. Je pense qu'elle a semé des graines dans différents milieux, notamment le milieu de la mode, où elle est aussi devenue une icône. Tout à l'heure, vous me parliez de ce qu'elle pouvait représenter pour la France. C'est une femme noire à la peau très foncée qui est devenue une égérie de Lancôme, par exemple. Donc, je pense qu'elle a semé des graines dans la mode. Peut-être qu'elle ira vers la création de vêtements pour elle-même, peut-être une propre marque. Elle vient de là, elle a fait des études de stylisme, c'était ce qu'elle voulait être au départ. Donc peut-être qu'il y a des horizons dans la mode, peut-être vers de l'acting, elle ne l'exclut pas. Musicalement, j'avoue que je suis très curieux de voir comment elle va renouveler ses inspirations, renouveler sa créativité, parce que ce qui est important à noter avec elle, c'est qu'elle est là depuis une petite dizaine d'années maintenant, qu'elle a 4 albums à son actif, et qu'elle arrive à renouveler ses tubes et ses inspirations musicales d'album en album. Et donc, il semblerait qu'elle soit en train de préparer quelque chose. Je suis très curieux d'entendre de qui elle va s'entourer, parce que pareil, elle renouvelle ses entourages de compositeurs régulièrement. Je suis curieux de voir les horizons qu'elle va emprunter et comment elle va s'adapter aux sonorités mondiales qui évoluent en permanence.
Alors, dernière question avant de finir cet entretien. Est-ce que on peut dire que Aya Nakamura fait déjà école ? Est-ce qu'elle a des héritières ou des héritiers qui se revendiquent de sa musique ?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que à l'heure actuelle, ce qu'elle a réussi à insuffler comme dynamique musicale sur la scène française est assez inégalé et même suffisamment fort pour que personne tente de réelles reproductions. Donc, pour l'instant, elle a ouvert des portes qui sont pas encore vraiment suivies des mules, mais je pense que ça ne saurait tarder. Tout dépend des directions qu'elle continue à prendre aussi.
Donc, à suivre de près, quoi.
À suivre de très très près, je suis le premier curieux de savoir ce que va être son avenir.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Ismaël Merighetti.
Merci beaucoup à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes va définitivement fermer ses portes à la fin de l'année.
Oui, cela faisait déjà plus de 10 ans que l'ESSAD Valenciennes se trouvait dans une situation très précaire à cause de la baisse des subventions municipales, passée d'1,4 million d'euros en 2012 à 350 000 euros en 2022. Les dernières années, plusieurs suppressions de postes d'enseignants ont été à déplorer, l'école n'était plus chauffée et elle ne fournissait plus de matériel à ses élèves. Un cas loin d'être isolé puisque la majorité des écoles territoriales supérieures d'art qui sont financées à 80% par les collectivités subissent des réductions conséquentes de leurs subventions.
Et puis Marie, le festival FIPADOC débute demain.
Oui, c'est le plus grand festival de documentaires en France. Le FIPADOC s'installe à Biarritz jusqu'au samedi 1er février. Et pour cette 7e édition, 180 films seront montrés au public avec une mise en lumière des luttes et des réalités sociales qui traversent le monde. Il sera possible par exemple de suivre le retour à la vie familiale d'un ancien soldat ukrainien, de plonger en immersion dans le monde de la tauromachie avec le prochain film très attendu d'Albert Serra, ou encore de suivre la lutte des femmes catholiques pour tenter de devenir prêtre. Et bien sûr, comme toujours, le programme complet du festival est à retrouver sur la page du Point Culture.
Merci Marie et on se retrouve demain pour un autre Point Culture.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.